Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est l'histoire la plus rude, la plus douloureuse que je vous ai jamais racontée. L'histoire de Lydia Guardo, tirée de son livre paru il y a 10 ans chez Michel Lafon, Le silence des autres. Le récit de son enfance martyre sous la houlette d'un père qui lui a fait 6 enfants. C'est une histoire dure, qui nous plonge dans les tréfonds les plus noirs de l'âme humaine. Et ça n'est pas une histoire pour les oreilles et pour les cœurs fragiles, et donc certainement pas pour les enfants. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je m'appelle Lydia, Lydia Guardo. Je sais à peine lire et encore moins écrire. Quand je me suis mis à raconter mon histoire, c'est en voyant l'horreur dans le regard des gens que je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu n'était pas normal. Alors voilà comment ça commence. Je dois avoir dans les 4 ou 5 ans. Je suis placé dans une famille d'accueil de la DAS, avec mon frère Bruno qui a 3 ans de plus et ma sœur Nadia qui a 15 mois de plus que moi. Je ne connais pas ma mère. Je sais juste qu'on m'a retiré à elle quand j'avais 3 mois, sur décision judiciaire. Je ne connais pas non plus mon père. Je sais seulement qu'il s'appelle Raymond et qu'il purge 5 ans de prison pour vol à main armée. Mais mon frère Bruno le connaît un peu. Il dit souvent « Notre père, il viendra nous chercher un jour. Tu verras ? Et il nous emmènera dans une belle maison. » Un soir, on est dans notre chambre avec ma sœur. Il est tard et on entend des cris. Un homme qui faut s'y faire au loin.
« Je veux récupérer mes gosses. Vous pouvez pas m'en empêcher. Je veux récupérer mes gosses. » « Ah non ? Ah non, vous n'en avez pas le droit. C'est au juge de décider. Donnez-moi mes gosses, je vous dis. Je suis leur père. Ils sont à moi. Je les emmène. »
Et là, je vois ma nounou rentrer dans notre chambre, suivie d'un homme grand et fort avec quelque chose de long à la main. J'ai toujours pensé que c'était un fusil.
« Je vous dis que je vais récupérer mes gosses. »
Mon frère Bruno sort de sa chambre. L'homme le prend par la main. Nadia se met à pleurer, et moi aussi. J'ai l'impression que c'est un ogre qui va nous dévorer. Et en même temps, j'ai envie qu'il nous emmène. Il dit à Nadia de se lever. Et moi, il me soulève de mon lit. Je suis en culotte, avec juste en haut. Je me laisse faire. Il nous sort de la maison. Il nous fait monter dans une grosse voiture bleue. On est presque nus. Et il démarre. Et ma nounou crie.
« Je vous préviens, je vais appeler la police et aussi le juge.
Faites-le, va. Faites-le, il y aura du sang sur les murs. »
Et il démarre dans la nuit. On a roulé pendant des heures. Quand je me suis réveillé, on était dans une grande ville, Blois.
« Voilà, on est arrivé. Vous allez connaître votre nouvelle maman. Vous avez intérêt à être bien gentil avec elle, hein, et bien sage. »
On a monté un escalier en grelottant, et la vieille nous a ouvert la porte. Au début, je l'appelais maman et lui papa. Et puis je les ai appelés le vieux et la vieille. Le vieux travaille. Il est imprimeur. La vieille travaille aussi, à l'imprimerie, mais dans un bureau. Et nous, on va à l'école. Sauf que le vieux n'aime pas qu'on se mélange avec les autres. Un jour, il attrape Bruno, il nous fait aligner devant lui dans la salle à manger. Il le couche sur ses genoux, le short baissé et... Il le frappe.
Voilà. J'espère que t'as bien compris maintenant. Va te coucher, petit salaud, hein. Je veux pas que tu parles avec le fils du voisin.
Comme le vieux et la vieille travaillent, ils prennent des jeunes filles pour nous garder. Et il y a toujours un moment où le vieux veut les faire boire, surtout quand la vieille n'est pas là. Un jour, une fille se met à crier. Il nous enferme dans notre chambre et on l'entend qui gueule.
« Salope, va ! Tu vas y passer, putain !»
Elle a réussi à lui échapper. Mais un soir, son père est venu sonner. On les a entendus s'engueuler, ils se sont battus. Le vieux est rentré avec du sang qui coulait de son gros pif. On n'a jamais plus de jeunes filles pour nous garder à la maison. Un jour, le vieux achète une caravane pour partir en vacances. Je ne suis jamais parti en vacances. C'est la première fois que je vois la mer. C'est beau. L'après-midi, on va à la plage et on va se baigner.
Oh, ça fait du bien de pisser dans la mer. Oh, c'est que de l'eau avec un peu de pastis, hein.
Et là, il s'approche de Nadia par derrière. Il la serre fort contre lui dans l'eau. Elle se débat puisqu'il la tripote.
Arrête de bouger comme ça, ou je te mets la tête sous la flotte.
C'est à partir de ce moment-là que le vieux a commencé avec Nadia. Un jour que la vieille était partie faire des courses, il l'a emmenée dans la caravane. Il s'est enfermé. On a entendu Nadia qui criait. Et puis, elle s'est mise à pleurer. Et le vieux a gueulé. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu vraiment méchant. L'imprimerie a fermé. Et il a perdu son travail, et la vieille aussi. Et là, il a décrété.
Bah, vous n'avez qu'à arrêter l'école, hein? Ça sert à rien, l'école.
Et un jour, je dois avoir 6 ou 7 ans.
Bon, on déménage. On part en Seine-et-Marne.
Et on arrive dans un HLM, à Meaux. Et un soir, depuis notre chambre, on les entend s'engueuler.
Si tu fais ça, t'iras en prison. J'aimerais bien savoir qui peut m'en empêcher. Toi, peut-être? Je te préviens. Si tu me dénonces, va y avoir du sang sur les murs. T'es un salaud de faire ça à ta propre fille. Ta gueule. C'est ma fille. Je fais ce que je veux. Et si t'es pas content, tu dégages. Et d'ailleurs, je le ferai pas plus tard que ce soir.
Et là, j'entends ses pas dans le couloir. La porte s'ouvre. Il attrape Nadia.
Viens par ici, toi.
Il la charge sous son bras. Et elle me regarde les yeux pleins de larmes. Il l'emmène dans sa chambre. Il ferme la porte à clé. Et après, il la ramène, il la couche sur le lit, et il sort. Et le lendemain, je vois qu'elle a un gros paquet de coton plein de sang entre les jambes. Un jour, le vieux est de bonne humeur. Il nous laisse aller jouer au bac à sable avec les autres enfants. Depuis le temps que j'en rêvais.
Mais attention, hein! Vous avez le droit d'y aller? Mais vous parlez pas aux autres, hein?
On descend tous les trois. On a peur des autres enfants. Une petite me demande.
Comment tu t'appelles?
Bien sûr, je ne réponds pas. Et là, les garçons commencent à m'embêter.
Et regarde comment elle est fringuée, celle-là. Ta mère, elle habite dans une poubelle. T'es une Romano, non? Je suis pas une Romano. Je m'appelle Guardo. Guardo, Romano, Guardo, Romano.
Alors on rentre. Et la vieille?
Mais vous vous êtes roulé dans la poussière comme des cochons.
Elle fait couler l'eau dans la salle de bain.
Viens ici, petite saleté.
Elle me traîne jusqu'à la salle de bain. Il y a tellement de buée qu'on se croirait dans le brouillard. Et une chaleur. Et là, elle m'attrape. Elle me plonge dans l'eau bouillante. Bouillante! Je regarde mes jambes, mon ventre. Ils sont tout rouges. Il y a des morceaux de peau qui se détachent.
Regarde! C'est la crasse qui s'en va.
Et là, elle prend une brosse. Et elle se met à frotter en arrachant des lambeaux de peau pleins de sang. Et là, brusquement, la porte s'ouvre. C'est le vieux.
Bon Dieu de merde, Lucienne! Mais qu'est-ce que tu fous? T'es devenu cinglé ou quoi?
Il me prend dans ses bras, il me dépose sur mon lit et il va chercher de l'huile pour la salade. Et il me la met sur les jambes et je hurle.
Merde! Putain, va falloir appeler une ambulance!
Je me suis réveillé dans l'ambulance et j'ai entendu la voix du vieux au loin.
C'est un accident, hein? L'eau était trop chaude, c'est un accident, c'est la faute de l'office HLM. Oh, je vais les attaquer!
Je me retrouve en réanimation. Et puis dans un hôpital pour grands brûlés, à Lyon. On va bien s'occuper de toi. Hein, on va pratiquer des greffes de peau. Dites-moi, monsieur Guardeau, l'idéal, ça serait que vous donniez un peu de peau à votre fille. Vous pourriez faire ça pour elle, non?
Non, je vous dis.
Mais enfin, c'est une question de survie pour elle.
Je peux pas. C'est pas ma vraie fille.
Qu'est-ce que vous racontez?
Sa mère l'a faite, j'étais pas là. J'étais en prison, vous êtes content?
Je suis resté à l'hôpital plusieurs mois. J'ai eu des dizaines de greffes. Et mon père était toujours là, à mon chevet.
T'as pas parlé aux gens, hein? Maman a très envie que tu reviennes à la maison. Alors tu vas quitter l'hôpital, hein? Pour ce qu'ils font, de toute façon, tu seras mieux soigné à la maison.
Et là, il a commencé à demander quand je pourrais sortir.
Vous pouvez pas la garder ici contre ma volonté. Je connais mes droits, hein?
Il prétendait qu'il savait faire les pansements. Et un jour, il est arrivé avec un certificat de notre médecin de famille. Il a dit, c'est ma fille, j'ai le droit. Et il m'a emmené. À la maison, c'est lui maintenant qui me fait la toilette. C'est lui qui me touche partout. Et un jour, il arrive avec un appareil photo.
C'est pour les assurances, hein? On va se faire de l'argent avec toi, tu vas voir.
Et il me prend en photo, toute nue, gros plan sur mes cuisses et sur mon bas-ventre. Et puis l'enfer a commencé. C'est le chapitre de mon histoire qui est le plus difficile à raconter. J'ai 9 ans. Et comme je peux pas marcher, depuis l'accident, le vieux a décrété qu'il serait le seul à s'occuper de moi. Donc maintenant, c'est lui qui enlève les pansements. D'un coup, sec. Je hurle. Alors un jour, le docteur de famille lui prescrit de l'éther. Il me fait respirer. Je me sens... Je m'éloigne, quoi. Mais je vois, j'entends tout ce qui se passe. Il me touche. Il se couche sur moi. Je sens ses doigts. Il a sorti son truc. Il s'introduit en moi. À partir de ce moment, il me viole tous les jours. Et les petites bouteilles bleues s'accumulent sous mon lit.
Tu vois, je suis gentil avec toi. Je suis bien le seul à m'occuper de toi. Ah, faut que tu sois gentil avec moi. Réponds, je serai gentil avec toi.
Oui.
Alors laisse-toi faire, sinon t'auras mal.
Si je me rebelle, il me met la bouteille d'éther sous le nez. Il a installé des œilletons aux portes de nos chambres pour pouvoir nous surveiller. Et la vieille regarde tout ce qu'il me fait par l'œilleton. Un jour, il lui dit en rigolant,
« Eh ben, rentre pour mieux voir !»
Elle n'a pas voulu. Petit à petit, les cicatrices de mes brûlures se sont refermées, laissant des boursouflures rosées, des cratères, des lézardes. Ma peau de chagrin, comme je dis. Alors à chaque fois que le vieux n'est pas là, j'essaye de me lever. Je fais des progrès tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai réussi à marcher jusqu'à la fenêtre. Je fais ça en cachette parce que lui, il ne veut pas que je remarche. Mais un jour, il me surprend.
« Qu'est-ce que tu fous, là ? Bon Dieu de merde ! Cette petite salope s'est levée ! Tu dois pas marcher ! J'ai fait des papiers pour la pension. T'es invalide à 100%. Si tu marches, ils vont l'abaisser. Et puis t'auras plus rien bouffé. »
Ça devenait chaud avec les HLM. Le bruit, les voisins qui se plaignaient. Alors on est parti pour une maison à la campagne, sans cuisine, sans salle de bain. La vieille n'est pas très contente. Le vieux l'a acheté à crédit, avec mon argent. Je touche une pension sur un compte de la poste. Je suis handicapé à 80% puisque je marche et que j'ai refusé de rester en fauteuil roulant pour toucher 100%. Il s'en sert pour payer les mensualités de la maison. Le vieux a repris ses activités d'imprimeur et il a obtenu le droit de mettre une camionnette sur le parking du centre commercial. Et sur la camionnette, pour attirer les clients, il a collé des affichettes avec ma photo prise toute nue, mes jambes et mes pieds brûlés, et ce slogan « Lydia Guardo, toujours pas indemnisée, justice, où es-tu ?» Et il me force à venir avec lui, et il m'exhibe pour leur montrer mes cicatrices. Il leur raconte mon histoire à sa façon, et après, il leur vend des cartes de visite. Un jour, on fait notre première fugue. On se barre tous les trois en se disant « on va croiser des gens, on va leur dire qu'ils nous battent ». Bruno prétend qu'il n'a pas le droit de nous frapper si fort. Mais on croise des gens et on n'ose pas. Et à la sortie du village, on voit sa camionnette arriver. Pour nous punir, il nous enferme 2 jours sans manger. Le vieux a aussi violé Bruno quand il avait 15 ans. Il a eu tellement mal qu'il ne pouvait plus s'asseoir. Et puis un beau matin, Bruno a disparu. Il est allé se réfugier chez notre grand-père, le père du vieux. Il lui a tout raconté, enfin presque tout. Il ne lui a pas dit pour les viols. Et ça, je lui en veux encore. Bref, le grand-père l'a cru. Il l'a emmené à la police, puis devant un juge pour enfants qui a ordonné une enquête. Une enquête. Tu parles. Le vieux a été convoqué par les gendarmes de Crécy. Et comme il colle des affiches depuis des années pour le RPR local, il est bien vu. Alors il les a baratinés. Et on n'a jamais vu les gendarmes à la maison. Jamais. Le juge a juste placé Bruno dans un foyer. Bruno a promis à Nadia de venir la chercher. Maintenant, le vieux note le jour des règles de Nadia sur un calendrier.
Ben, tu vois maintenant, t'as l'âge d'avoir des gosses. Alors tu vas m'en faire un, hein? Et on va calculer quand c'est le meilleur moment.
Nadia a tellement peur qu'elle se coupe exprès avec une lame pour mettre du sang sur un coton et lui dire
« C'est pas possible, j'ai mes règles. »
Et puis un jour, Bruno tient sa promesse. Il vient la chercher, il le lui avait promis pour ses 18 ans. Et je la vois monter dans une voiture au loin. Nadia ! Nadia, attends-moi ! Et maintenant, je suis toute seule. Le jour de mes 18 ans, le vieux me dit
« Eh bien maintenant, t'es en âge d'avoir des gosses. On va refaire une vraie famille. »
Il reprend donc son calendrier. Et pour être certain que je tombe enceinte, il invente une nouvelle torture. D'abord, il se déverse en moi, il m'ensemence. Et après, pour que ça descende, il m'attache par les pieds à une poutre et il me soulève.
C'est comme ça qu'ils font les bougnoules avec leurs femmes. Et quand on voit tous les petits bougnoules qui sont capables de pondre, ça doit marcher.
Et il me laisse 3-4 jours enfermé dans le grenier, les jambes en l'air comme ça. Et il attend mes règles. Et mes règles ne viennent pas. Je suis enceinte. Je déteste ce qui est en train de pousser dans mon ventre. Alors je bois de l'eau, beaucoup d'eau. Tellement d'eau que j'ai l'impression de déborder. Je me dis, ça va peut-être le noyer. Il n'a pas voulu que j'accouche à Meaux. Il dit que je suis trop connu là-bas depuis mon accident. Alors il me met dans sa camionnette et il m'emmène à la Salpêtrière, à Paris.
Retiens-toi, putain! Retiens-toi! On est bientôt arrivé, hein? Quand tu seras, tu feras ton bébé, et puis tu fermeras ta gueule, hein? D'accord? T'as pas besoin de répondre aux gens, je serai là, je m'occupe de tout. T'as compris?
Mon premier bébé, né le 8 décembre 1982. J'ai 20 ans. Le médecin me demande, qui est le père?
Ben, son père, c'est mon père.
Le médecin tourne la tête vers le vieux, qui lève les yeux au ciel pour me faire passer pour une idiote.
Bon, bah écoutez, si vous savez pas qui est le père, on marque père inconnu, d'accord?
Il n'est pas à moi, ce bébé. Il est au vieux, ça, il me l'a fait bien comprendre. Alors je me mets à l'ignorer. J'ai voulu partir. J'ai voulu faire une nouvelle fugue, il m'a rattrapé. Et il m'a enfermé 6 mois au grenier. Il venait 2 fois par jour avec de nouvelles choses à introduire en moi. C'était d'abord des ustensiles de cuisine. Et ensuite il est passé à la boîte à outils. À la perceuse, pour laquelle il a confectionné des accessoires. Un jour, il organise une cérémonie, un faux mariage. En présence de la vieille, il m'offre une alliance en or sur laquelle il a fait graver Lydia et Raymond.
Voilà! Maintenant j'ai 2 femmes. Une vieille et puis une jeune. On va faire une vraie famille, avec beaucoup d'enfants.
Et c'est comme ça que je deviens la mère des enfants de mon père. Après Raymond, en décembre 82, arrive Bruno, en décembre 86, et Rémi, en avril 88, et Régis, en août 89, et Brice, en avril 91, et Boris, en janvier 93, et Rudy, en avril 96. En 14 années, de mes 20 ans à mes 33 ans, il me fait 7 enfants. Et je n'ai pas le droit d'y toucher. Je n'ai pas le droit de les prendre dans mes bras. Je ne suis qu'une pondeuse d'enfants. Et la vieille, une nourrice. J'ai fait une nouvelle fugue. Un après-midi, il va faire son PMU, il me laisse dans la camionnette. Alors je cours jusqu'à la gare de Meaux. Je monte dans le train. J'arrive à Paris. Mon Dieu, que la gare est grande. Je suis fatigué. Alors je me mets dans un coin. Et là, 3 flics s'approchent. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Faut pas rester ici, t'as des papiers? Je leur dis tout. Je leur dis qu'ils me barrent. Je leur dis que la vieille m'a brûlé. Et ils ont appelé le vieux. Et ils l'ont laissé m'emmener. Au retour, il m'a frappé. Ça a duré 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, il a arrêté d'un coup.
Bouge pas. Je vais te faire définitivement passer l'envie de te tirer.
Et là, il a sorti un petit flacon. C'était de l'acide. Il a pris un torchon, il a fait couler le liquide dessus. Et avec, il m'a frictionné les pieds et les chevilles. J'ai eu tellement mal que je suis tombé à la renverse. Et puis un jour, il est tombé malade. Le diabète. On a commencé par lui couper les orteils du pied gauche. Et comme il se soignait pas, il s'est dégradé très vite. Et moi je l'ai regardé crever sous mes yeux. Je l'ai laissé manger de la confiture, du Nutella, rajouté autant de sucre qu'il voulait dans son café. Et un jour, je suis allé le voir à l'hôpital.
Vous êtes de la famille ?
Votre père est mort cette nuit, madame, d'une embolie pulmonaire. Je suis désolé, nous n'avons rien pu faire.
J'ai pleuré. Et pourtant, combien de fois j'ai rêvé de sa mort ? Mais je me retrouve seul, orpheline, veuve, privé de mon unique repère. Un jour, il m'avait emmené au cimetière.
Regarde là. Tu vois la tombe là ? C'est là que je serai enterré. Alors si je meurs avant toi, eh ben tu viendras m'y rejoindre. T'as compris ce que je t'ai dit ? Tu devras te tuer juste après. Hein ? Tu prendras la camionnette, tu te jetteras contre un arbre, t'as compris ? Jure sur ma tombe que tu le feras, jure !
Et j'ai juré. Et c'est devenu une idée fixe. Il fallait que j'aille le rejoindre. Je suis au volant de la camionnette. Je vois un pont, au milieu du pont, je donne un coup de volant, je vois le parapet qui se rapproche, l'eau dessus comme un trou sombre. Et je m'évanouis.
On a appelé les pompiers, mademoiselle. Ne bougez pas, vous saignez de la tête, les secours vont arriver.
Une nuit de décembre, les garçons sont allés tout casser sur la tombe du vieux.
Ils ont détruit les plaques, les lettres d'or, les vases, les plantes. Et au burin, ils ont tenté d'effacer dans la pierre jusqu'au souvenir de son nom.
J'ai tiré cette histoire du livre de Lydia Guardo chez Michel Lafon, Le silence des autres.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.